Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres.
La Fondation Adonai Iri House vous invite à suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
Et le monde veut me crucifier.
Pour soutenir les émissions radiophoniques de la Fondation Adonai Iri House, Bank of Africa Benin, nom du compte, Association Adonai Iri House, Code Banque BJ 061, Code Guichet 01001, numéro du compte 00119 28 95 00 05, Clérib 07, Code Swift Afri BJ BJ XXX.
Mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser.
Chers auditrices, chers auditeurs, que la puissance du Consolateur, l'Esprit de vérité, troisième personne du Conseil Trinitaire, soit avec vous. Précédemment, nous nous sommes focalisés sur les différentes définitions de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, a promis bâtir. Nous nous sommes rendus compte qu'il est difficile de donner une définition exacte de l'Église, l'Ecclésia. Et j'ai eu à dire qu'en ce qui me concerne, qu'il faudra retenir, conformément à ma compréhension, que l'Église est le rassemblement des êtres humains faillibles, déformés par le péché originel au Jardin d'Éden, des êtres qui se lèvent transformés par le grand berger Jésus-Christ, qui est chef et fondateur de l'Église, que les hommes se reconnaissent désormais comme temple du Saint-Esprit, avec pour mission essentielle d'être sel et lumière pour impacter transformer ce monde à l'image du Christ. Ceci afin que le règne et la volonté parfaite de Dieu puissent se vivre sur cette terre et dans toutes les sphères de la société où la présence persuasive et dissuasive de l'Église et de ses chrétiens se fait nettement sentir. L'Église est le lieu, la plateforme de sa propre recherche, en ce sens qu'elle est à la fois objet et sujet de l'ecclésiologie qui vit les données eschatologiques. Bienvenue donc à notre émission Citoyens du ciel et de la terre de ce jour. Notre objectif aujourd'hui est de présenter une autre facette négligée de la Pentecôte qui diffère largement de tous les discours, de toutes les prédications, de toutes les exhortations, de tous les enseignements concernant ce qui s'était passé 10 jours après l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à Jérusalem. Il s'agit donc de mettre en exergue le caractère et la caractéristique politique de l'événement qui s'était produit dans la ville du roi David. En ce sens, il faut faire un plaidoyer pour un meilleur impact de l'Église dans la société. En d'autres termes, c'est le lieu de décrire la force politique que représentent les chrétiens. En ce sens, car la Pentecôte, c'est un regroupement particulier, un type de parti politique, une ecclésia, une synagogue qui ne dit pas son nom qui a vu le jour. Quand les dirigeants s'opposèrent à eux, ces hommes étranges, enivrés par le vin de la grâce, continuèrent à proclamer l'évangile jusqu'à ce que les geôliers laissent tomber leurs clés et que les rois tremblent sur le trône. Nous signale Martin Luther King. Il s'agirait également de motiver les chrétiens à prendre leurs responsabilités et à les exercer sur le plan politique. Certaines personnes moulées dans les compréhensions et les herméneutiques traditionnelles de la Pentecôte pourraient être choquées de prime abord et rejeter la vérité et la véracité qui se présente à eux. D'autres, par contre, nourriront leur curiosité à chercher à comprendre d'abord avant d'y adhérer ou de rejeter pour retourner dans leur moule de focalisation sur le parler en langue et la recherche effrénée des dons du Saint-Esprit. À toute auditrice, à tout auditeur, c'est un appel à une ascension herméneutique de la compréhension actuelle pour se diriger vers la compréhension d'une vérité, d'une réalité qui ont toujours existé et ceci sous le contrôle du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle herméneutique qui froisse les principes bibliques d'interprétation de la parole de Dieu, mais plutôt d'un appel à redécouvrir toutes les richesses de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui accoucha d'un groupe extraordinaire qui, sans même parler et agir, avait de l'impact et de l'influence sur le plan politique. Je voudrais donc mettre la lumière sur l'Église comme un regroupement particulier. Ce sera l'occasion de réfuter l'idée populaire et naïve selon laquelle l'Église est apolitique. politique. Martin Luther King fait le constat que pour beaucoup de chrétiens, le christianisme est une activité du dimanche qui n'influence en rien le lundi. Et l'église n'est guère qu'un vague club social légèrement teinté de religiosité. En effet, les dates des lobbies chrétiens et l'impact des chrétiens en politique apporteront des éléments crédibles à la thèse qui stipule que les chrétiens représentent un groupe politique particulier. L'église doit être vue comme un mouvement d'influence dans toutes les sphères de la société. Les chrétiens de l'Ecclésia primitive inquiétaient et donnaient du fil à retordre à l'Empire romain dominant en ce moment. En effet, leur philosophie et leur approche de la vie sont diamétralement opposées dans mes domaines à celui du commun des mortels et des dirigeants qui n'ont pas reconnu l'œuvre accomplie à la croix. Les chrétiens représentaient un groupe à ne pas négliger, voire à surveiller comme du lait sur le feu. Un groupe à dénoncer, à emprisonner, à tuer. C'était un groupe incontrôlable, insaisissable du point de vue de la politique humaine et de la compréhension qu'avaient les acteurs et les gouvernants de l'Empire romain en cette période. C'était un groupe qui influençait profondément le cours de l'histoire, de la société, du temps, de la géographie. Le recours à l'histoire de l'Église nous permet de mieux nous rendre compte du rôle joué par les chrétiens et l'Église. Partout où allaient les premiers chrétiens, ils portaient au Christ un témoignage triomphal. Lorsqu'ils rentraient dans une ville, son administration était troublée. Ils pressaient les gens de se dresser contre les vieux régimes d'injustice et les vieilles structures immorales. Les chrétiens avaient donc une influence considérable. Ils représentaient un lobby de pression que tout pouvoir en place, même s'ils le détestaient, ne pouvait ignorer ce groupe. La force chrétienne de l'Église primitive était une force persuasive, dissuasive, envahissante et pertinente. C'est à juste titre que le gouverneur Pline le Jeune, au début du deuxième siècle de notre ère, se sentant débordé et acculé par ce permanent dossier des chrétiens, va notifier à l'empereur Trajan ce qui suit. Pline le Jeune déclare, ce ne sont pas seulement les villes, ce sont les bourgs et les campagnes que cette superstition contagieuse a gagné. Pour Pline le Jeune, le christianisme était donc devenu une maladie qui contamine et les villes, et les villages, et les campagnes. Depuis la Pentecôte jusqu'à l'avènement de l'empereur Constantin au 4e siècle de notre ère, le mouvement chrétien a été de tout temps persécuté par les différents empereurs avant que Constantin ne puisse reconnaître la force et la puissance de ce lobby chrétien auquel il fit allégeance tout en le manipulant habilement en vue de la pacification de son empire. Au-delà de tous les discours sur le césaropapisme, il faut retenir essentiellement le fait que les chrétiens étaient incontournables dans la marche de l'Empire romain. Ceux de Christ doivent forcément influencer César, parce que César se doit normalement de se soumettre à Christ et de reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Avec John Redekop, nous signalons que tous les deux régiments, l'Église et l'État, ont été établis et guidés par Dieu, et les chrétiens ont eu une obligation de servir, non seulement dans l'Église, mais également dans les fonctions publiques. Johann Baptiste nous permet de comprendre que l'Église, dans sa manifestation historique et sociale, exerce toujours déjà une action en tant que réalité politique. C'est-à-dire qu'elle existe et agit politiquement avant toute prise de décision politique explicite et par là aussi avant toute question concernant les critères de son attitude politique. L'hypothèse habituelle d'une neutralité a priori et a priori et d'une innocence de l'Église est une hypothèse naïve, ou bien elle dissimule des alliances politiques existantes. C'est pourquoi il est indispensable d'élaborer une théorie critico-pratique politique de l'Église. Elle doit empêcher que l'Église s'identifie sans contrôle et sans critique avec des idéologies politiques déterminées et par là même tombe au rang de religion purement politique. C'est donc vraiment naïf de croire que l'Église est neutre en ce qui concerne la politique, alors que par son essence, elle est politique. Avec King, nous nous interrogeons et nous nous demandons si nous ne devons pas admettre que l'Église a souvent négligé cette exigence morale d'enseignement. Il lui est arrivé de parler comme si l'ignorance était une vertu et si l'intelligence était un crime. Par son obscurantisme, son étroitesse d'esprit et par résistance à une nouvelle vérité, elle a souvent encouragé inconsciemment ses fidèles à regarder l'intelligence de travers. Pouvons-nous réellement continuer par affirmer aujourd'hui que l'Église est apolitique selon la loi associative de 1901? Les frères et sœurs de l'Église, les chrétiens sont nommés à des postes politiques. Et pourtant, certains chrétiens refusent que l'on parle de politique, que l'on parle de la gestion de la cité dans laquelle les chrétiens sont impliqués. On préfère se focaliser sur l'attente de Maranatha, de la nouvelle Jérusalem et des nouveaux cieux. N'est-ce pas là jouer à la politique d'Autriche? N'est-ce pas là se mentir à soi-même? N'est-ce pas là refuser de se regarder en face dans le miroir de la vérité? Il faut aujourd'hui une éducation politique de l'Église et une éducation politique à l'Église. Il faut une l'étude de l'herméneutique politique actuelle de l'Église et ceci à la lumière de la parole de Dieu. Christ a lancé durant son ministère le programme politique de libération holistique que l'Église devrait prendre en compte dans ses actes politiques. En Luc chapitre 4, verset 18 à 19, Jésus-Christ affirme « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Tel était le programme d'action du gouvernement de Jésus-Christ, rapporté par le médecin Luc. Au sein de l'Église se regroupent des penseurs chrétiens qui agissent en politique. Force est donc donner de constater que les plans d'action de l'Église et des gouvernements se chevauchent à des degrés considérables. Une telle situation ne doit pas surprendre parce que dans beaucoup de cas, les projets du gouvernement consistent à faire ce que la communauté chrétienne fait également. Et la communauté chrétienne est beaucoup plus sensible et initie également des projets. Il y a en effet des coïncidences entre les agendas de l'Église et ceux de l'État en matière de développement, de bien-être. Et il est important qu'on s'y attarde et qu'on y pense. C'est un parti politique qui prend le pouvoir selon le système démocratique en vigueur et qui exécute un programme de développement et ceci dans mes domaines, en agissant dans les domaines de l'Église. N'est-ce pas juste qu'aux États-Unis d'Amérique, il a institué le système de taxes déductibles en faveur des organisations para-ecclésiastiques et des ONG, en ce sens que l'État reconnaît que l'Église l'aide et accomplit une partie de ses responsabilités. Le Christ crucifié dont la communauté fait mémoire est celui qui donne le courage d'une liberté politique pour transformer les structures d'injustice en chemin de vie et de paix. Aujourd'hui, beaucoup de politiciens se font passer pour des chrétiens à l'approche des élections car ils savent qu'ils s'y trouvent un réservoir d'électeurs qui peuvent bouleverser le cours de l'histoire. En ce sens, les chrétiens, depuis la nuit des temps, ont toujours représenté un groupe spécial. Amis de l'émission Citoyens du ciel et de la terre, Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui et t'offre l'opportunité de bénéficier du don de la puissance du Saint-Esprit, d'appartenir à son Église et d'être un instrument entre ses mains pour impacter ton monde contemporain comme l'avaient fait les chrétiens de l'Église primitive. C'est un appel auquel il faudra répondre positivement ce jour. Soyez donc sensible à l'interprétation du Saint-Esprit, soyez donc sensible à l'appel de l'Esprit et que celui qui a des oreilles écoute aujourd'hui ce que dit l'Esprit de Dieu. Que la puissance du Consolateur, l'Esprit de vérité, troisième personne du Conseil Trinitaire soit avec vous. Nous vous remercions pour votre écoute et à la prochaine si Jésus-Christ ne revenait pas.
Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres.
Vous venez de suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
M'enlacer.
Pour tout renseignement, Fondation Adonai Iri House 01 BP 27 24 Cotonou Bénin. Numéro WhatsApp 00 229 97 11 94 77. Email info@adonaiiri.org. info@adonaiyireh.org.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.